Welcome to Greendale's Drug Awareness Show!
I finally have a case of lupus.
Lester, is this what you want?
Mr. Buckland, we are the sexual revolution.
What is up with the sex? It's all anybody thinks about anymore. Sex, sex, sex. What is the big deal?
Call it.
Are you right?
Yeah.
Yeah?
Are we having fun yet?
Bien le bonsoir, bienvenue à l'écoute de Série Folie, l'épisode 9 de la saison 3. Bonsoir Aurore.
Bonsoir Ben.
Bienvenue parmi nous pour nous expliquer un petit peu ta vision des choses en ce qui concerne les séries télé.
Oui, on peut dire ça comme ça.
C'est vrai, hein?
Oui.
Allez, bon bref, on va pas tergiverser, on va revoir avec toi eh bien les pilotes que tu as pu évaluer pour nous cette semaine.
Oui, je commence avec Agent X. C'est une série diffusée par TNT et qui a pour argument principal d'être la série dans laquelle apparaît Sharon Stone. Oui.
c'est, j'ai l'impression que ça va être tout.
Oui, en fait, c'est tout. Malheureusement, alors pour expliquer un petit peu le pitch, nous avons donc une nouvellement nommée vice-présidente qui, lors de son entrée en fonction dans la maison qu'elle va occuper, découvre une salle secrète et tout le secret qui accompagne. Cette salle, c'est que en fait, il existerait un article caché dans la Constitution qui donnerait au vice-président les pleins pouvoirs à travers un agent spécial qui peut faire exactement tout ce qu'il veut pour pallier aux situations d'urgence. Et ça tombe bien, puisque dès son entrée en fonction, justement, il y a la fille d'un député qui a été enlevée. Donc, on va pouvoir assister directement à la mise en œuvre de cet agent. Alors, que dire ? C'est très, très ennuyeux. Ça, c'est la première chose. La série s'ouvre sur... une espèce d'introduction en scène d'action avec justement cet agent qui se retrouve à devoir se battre avec plusieurs vilains, hein. Alors les vilains sont des méchants russes et évidemment parmi ces méchants russes il y a une femme très sexy mais qui se bat super bien en sous-vêtements, ça tombe bien, en plus dans un ascenseur, comme ça on a l'occasion de vraiment voir avec les miroirs et tout dans tous les sens. C'est...
Moi ça me parle, hein.
Écoute, je m'en doute.
Décrit comme ça, ça donne envie d'aller y jeter un œil.
En dehors du fait que c'est absolument ridicule et pas du tout crédible une seule seconde, oui, si t'as envie d'une femme sexy qui se bat en sous-vêtements, ça peut le faire. Mais enfin, c'est quand même pas un argument extrêmement valable pour la durée, quoi.
Ok.
mais évidemment, je ne jugerai pas tes goûts en la matière. Tu es libre. Bon, donc ça, c'était pour Agent X, qu'on va donc éviter le plus possible. Pour tout dire... au bout de 10 minutes, j'avais de plus en plus mon œil qui avait tendance à aller regarder ailleurs parce que c'était inintéressant au possible, quoi. La seule chose, c'est que Sharon Stone a toujours autant de charisme, on peut lui reconnaître ça. Mais une fois qu'on a constaté que, elle a de bons restes, voilà, quoi, ça donne quand même pas envie de rester non plus pendant 40 minutes. Donc voilà.
Voilà, on tourne la page.
Ça, c'est la première série. Donc, deuxième série que j'ai regardée, qu'on va passer assez vite aussi parce que je ne l'ai pas trouvée beaucoup plus intéressante, c'est Versailles. J'ai regardé le pilote de la série de Canal+, Versailles. À nouveau, on a l'impression d'être dans le cliché absolu. Les choix des acteurs, enfin moi leur tête me revient déjà pas à la base, mais c'est probablement uniquement, enfin c'est physique hein, ce genre de choses, donc je peux pas vraiment fonder tout mon jugement là-dessus, mais il y a du cul à tous les étages, mais du cul joli hein, du cul dans un beau palais quand même, du cul en costume quoi hein.
Ah ouais. à la Mylène Farmer.
Oui, si tu veux, oui, mais à part ça, enfin l'histoire en gros c'est Louis XIV qui va construire Versailles quoi. C'est super, mais je m'en fous un peu, à vrai dire. Donc,
Mais bon, en même temps, c'était pas une surprise. C'était ça l'histoire, c'était ça le nom de la série. Donc quoi, pourquoi t'y vas ?
Mais je ne sais pas, j'avais entendu un entretien avec le créateur de la série qui donnait quand même l'impression que c'était un peu plus que ça, qu'il y avait toute une ampleur qui une réflexion aussi contemporaine et tout à travers et à part que je me suis ennuyée de manière très très contemporaine
OK.
Donc voilà. Je peux pas dire beaucoup plus que ça. Je passe donc à la suite et cette fois-ci on va quand même parler de choses qui m'ont plus intéressée et tout d'abord Into the Badlands. Diffusé sur AMC. Alors, je suis assez étonnée parce que je m'attendais à pas du tout aimer. En fait, on part dans un monde à la fois futuriste, mais qui reprend plein d'éléments qui nous font plutôt penser au passé, c'est-à-dire énormément de combats du genre samouraï. On a des sortes de plantations un peu comme on pouvait en imaginer aux États-Unis juste avant la guerre de sécession. Voilà, on a une espèce d'organisation médiévale où ce sont des barons qui détiennent donc ces espèces de plantations et qui font un peu la loi tout en essayant de maintenir une paix toujours très relative entre ces différents fiefs. Bon, voilà. Donc c'est quand même un univers assez particulier et en plus, ben, c'est plein de bagarres style kung-fu, je m'y connais pas du tout, mais ce genre-là, quoi. Et... Ne me regarde pas d'un air désespéré.
Mais non, mais voilà, tu connais rien du tout. De belles batailles, de ninjas, de samouraïs.
Mais
voilà.
Bien chorégraphiées. Voilà.
On est d'accord.
Et étonnamment, plus je regardais cette série, et contrairement à Jean X, et plus mon œil restait accroché, notamment parce que l'image est très belle. On a vraiment des couleurs magnifiques, on a des très très beaux cadres, même si bon, souvent quand ça a le malheur de se passer en forêt, on a tout à coup l'impression de se retrouver dans la même forêt que The Walking Dead. Je serais pas étonnée qu'ils aient été filmés au même endroit, parce que t'as l'impression d'avoir déjà vu cet arbre-là en particulier. Mais
ouais, la forêt est un peu pourrie.
Oui, la forêt, je sais pas, elle avait un air de déjà-vu, mais à part ça, vraiment, j'ai été happée par cette histoire. Les personnages, j'en suis pas encore totalement accro, mais ils sont pas inintéressants. On a donc le personnage principal qui est une sorte de super samouraï, hein, qui est le plus fort de tous les samouraïs d'un des barons. qui découvre un jeune garçon qui apparemment a un pouvoir assez particulier, puisque dès qu'on le fait saigner, il devient super fort et tue toutes les personnes autour de lui, quoi. Donc à partir de là, on ne sait pas du tout où ils peuvent nous emmener, mais ça donne envie de suivre, déjà rien que pour voir les images, c'est beau, ça donne envie, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Pour le moment, j'ai vu deux épisodes et ça m'a plu.
Bien, quelle argumentation. Et ça s'appelait comment encore donc cette série ?
Into the Badlands.
Allez, une petite dernière pour la route.
Une petite dernière pour la route. Il s'agit cette fois-ci d'une série anglaise, ça s'appelle Cuffs. Et c'est une série policière qui m'a beaucoup plu également, parce que ça m'a fait penser, mais presque, de manière extrêmement frappante, à la série New York 911.
Mm-hmm.
Voilà. C'est.
Et pourquoi je n'ai pas encore vu cette belle série ?
Je ne sais pas.
Tu me caches des choses.
Sûrement. Donc c'est filmé de manière, j'ai l'impression aussi. À la même manière que New York 911, avec des courses-poursuites dans des ruelles, ce genre de choses-là. On suit les policiers en patrouille, on suit plusieurs affaires à la fois, plusieurs policiers dans un même commissariat, etc. On a la même entrée à travers un petit nouveau qui s'avère n'être pas totalement non plus... étranger au milieu, puisque son père est le chef de la police, ou je sais pas quoi exactement.
Ah et... oui, j'ai quand même vu quelques images.
Ah, tu vois.
Je me souviens maintenant du père qui est le super gradé, qui est pas gentil.
Voilà, eh bien, c'est vraiment une bonne surprise. Est-ce qu'ils arriveront à trouver le petit plus qui a rendu New York 911 si attachant, je suis pas encore certaine, mais en tout cas, y a tous les éléments qui font penser.
Et ça se passe où ?
Ça se passe à Brighton, je crois.
Ok, donc série anglaise, hein, on est bien d'accord.
Oui.
Oui, oui, non.
Oui, oui, c'est ça qui est étonnant, c'est que ça fasse autant penser à New York 911 alors que ça se passe pas du tout dans le même endroit.
Parfait. Ben voilà, à continuer, voir un petit peu vers quoi ils vont nous mener. Je te propose de marquer une pause, justement, musicale. Je te la laisse présenter.
Oui, il s'agit de Youth, chanté par Daughter et entendu justement dans le pilote de Cuffs.
Shadows settle on the place that you left. Our minds are troubled by the emptiness. Destroy the middle, it's a waste of time. From the perfect start to the finish line. And if you're still breathing, you're the lucky ones. 'Cause most of us are heaving through corrupted lungs, setting fire to our insides for fun, collecting names of the lovers that went wrong, the lovers that went wrong. Lucky ones. 'cause most of our feelings, they are dead and they are gone. We're setting fire to our insides for fun.
Voilà, de retour sur cette fameuse musique du générique d'urgence. Le sujet du jour, Aurore.
Alors, on va parler d'économie.
Wow, bon. Moi, je m'en vais, je te laisse. À la semaine prochaine.
Ok, à la semaine prochaine. Donc, mais oui, je suis désolée, mais ça existe. Hein, donc, pourquoi est-ce qu'on ne l'aborderait pas également en série? Donc, en gros... on va pas trop aller dans les détails non plus, mais on va essayer de s'interroger sur l'impact que peuvent avoir certains éléments économiques sur la production, la diffusion, etc. de séries, mais également comment les séries représentent les difficultés, les différences économiques, etc. Et puis voilà, on essaiera de réfléchir à propos de tout ça.
Bien, alors.
Alors, on va commencer donc par le point de vue simplement extérieur, c'est-à-dire de la production, de la diffusion et de la réception des séries télévisées. Toute cette réflexion est partie d'un article sur lequel je suis tombée totalement par hasard. D'autant plus par hasard que je me suis rendu compte que c'était pas du tout un nouvel article, puisqu'il date de 2013 déjà, et qui expliquait que il y avait de grandes différences de revenus entre le public de certaines séries et d'autres séries. Dans cet article-là, ils expliquaient que entre le public de Modern Family et le public de la série animée Bob's Burger, eh bien, il y avait quasiment du simple au double dans les revenus annuels des personnes qui regardaient ces séries-là.
Bon, moi, ma première question, comment ils savent ça? Je sais comment fonctionnent un petit peu les sondages. J'ai pas envie, c'est pas anonyme, c'est pas tout à fait vrai, puisque je pense que dans le questionnaire, au minimum, tu dois donner ton âge, peut-être tes revenus, mais bon, ça me paraît quand même assez...
Oui, à mon avis, c'était à la grosse louche, hein, la manière dont ils ont fait ça, parce que notamment ils expliquaient que c'était beaucoup sur tel ou tel network, enfin ils avaient des approximations du public qui regardait telle ou telle chaîne, et du coup mais en fonction de ce public-là, ils déterminaient davantage aussi en fonction de l'âge, hein, simplement le fait que Bob's Burgers soit une série animée et que les séries animées soient davantage regardées par les plus jeunes, explique aussi que les revenus soient plus faibles que pour d'autres séries, tout simplement parce que le public jeune n'a pas encore les revenus d'une personne de 40-50 ans.
Oui, ben là de nouveau, je ne voudrais pas démonter ce truc-là, mais on parle d'un format bien spécial par rapport à un autre qui ne sera peut-être pas du dessin animé, donc.
Oui, oui, bien sûr. Ici, okay. C'est vraiment... Ils parlaient de télévision en général. Je crois même que dans leur classement, il y avait d'autres émissions que des séries télévisées. Donc c'était assez large.
L'article en soi, oui. On s'en fout un peu.
Oui, c'est le point de
vraiment
départ,
la réflexion qui vient derrière qui est intéressante.
Voilà. Donc, même si de fait, je ne sais pas du tout comment il y aurait moyen de... répartir exactement les publics, on peut imaginer malgré tout que il y ait une répartition socio-culturelle des publics entre différentes séries. Il est prouvé que appartenir à tel ou tel milieu socio-culturel influe énormément sur nos goûts. Donc, il est assez logique que ça influe aussi sur les séries qu'on regarde. Je crois que il faut pas avoir fait 10 000 ans de sociologie pour partir de cette hypothèse-là. En dehors de ça, mais on peut aussi s'imaginer que si une série est plus regardée par un public aisé, peut-être aussi que ça va faciliter ses rentrées publicitaires. Et donc peut-être que ça la rendra d'autant plus attrayante et avec d'autant plus de moyens, et donc éventuellement encore plus attrayante pour des classes encore plus élevées. C'est une hypothèse. Tu fais oui. Une de ces têtes.
Mais non, mais ben voilà, je sais pas si. Enfin, est-ce que c'est vraiment le but de certains networks de viser une classe sociale? Enfin. Au départ, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est avoir de l'audience, le plus d'audience possible.
C'est de moins en moins aussi général que ça. Hein.
C'est fini la génération TF1.
La génération généraliste est de moins en moins vraie. On segmente de plus en plus les publics et oui, je crois que en fonction de la pénétration de telle ou telle série sur tel ou tel marché en particulier, eh bien, la série, même si elle ne fait pas du tout de très bons scores en général, va avoir plus de chances à être renouvelée parce qu'elle touche davantage, je sais pas, moi, les jeunes ou les CSP+, ou que sais-je encore, quoi. Donc, oui, malgré tout, plus on avance et plus le marché se segmente et plus on va avoir tendance à viser vraiment le public recherché.
Ok, bon, la chaîne, elle en retire quoi? Elle en retire de la publicité. Et donc, le fait que sa publicité soit peut-être vendable vers un public cible plus précis... Mm-hmm. Va pouvoir... c'est plus le nombre, en gros, qui va déterminer le prix, peut-être, du marché.
Ben ça l'est beaucoup moins qu'avant, en tout cas.
Bon, j'écoute ton analyse. Hein. Je te rappelle qu'on fait de la radio et qu'on est un peu concerné par ce type de marketing. Donc,
d'accord,
voilà.
Écoute, voilà.
Donc, les gars, hein, nous, on est... pas trop écouté, hein, mais on s'en fout, on vise l'élite, donc chez nous, ça coûte super cher.
Oui, bien sûr.
Voilà.
Bon, bref, je vais pas m'étendre sur le sujet, mais donc, ça c'est première chose à prendre en compte, c'est l'identité du public auquel s'adressent certaines séries. On peut, sans trop... sans trop faire d'hypothèses, se rendre compte que toutes les séries ne s'adressent pas toutes au même type de public. De même, en fonction des réseaux, en fonction de est-ce que on est sur le câble ou bien sur un network, on va avoir des attentes et des budgets très très différents qui vont aussi énormément influer sur les séries. Et donc, bien souvent, c'est toujours le débat, est-ce que vraiment il est possible de comparer une série de network à une série du câble, alors que les conditions de diffusion et de programmation et même de production ne sont absolument pas les mêmes, les budgets ne sont pas les mêmes et les publics ne sont pas les mêmes non plus.
Voilà, c'est enfin l'effet canal, l'esprit canal qu'on a pu connaître dans nos contrées, par exemple.
Par exemple, oui. C'est vraiment l'idée que y a une liberté qui a permis à certaines séries et à certaines chaînes en particulier de se faire un nom dans le milieu de la production de séries, mais qui est très dépendante du fait que elle s'adressait à un public très très restreint, avec abonnement et ce genre de choses-là. Quoi.
Maintenant, le mode de consommation a beaucoup évolué aussi.
Oui.
Quand on voit un Netflix débarquer à un prix démocratique, est-ce que tu crois que Netflix a autant de moyens qu'un gros network qui, malgré tout, est là depuis des années et des années et qui peut sortir des millions pour faire une série à succès ?
Écoute, là, franchement, je ne suis pas du tout...
Mais est-ce que tu trouves que la qualité des séries que propose Netflix, par contre, est à la hauteur ?
Alors, ce qu'on peut dire au minimum, malgré tout, même si je connais absolument pas les budgets ni des networks, ni de Netflix en particulier, c'est que Netflix, en fonctionnant sur de l'abonnement, reçoit l'argent en
direct.
En aval.
Oui.
En aval de la production de séries, tu vois. Tandis que les networks, quelque part, ils reçoivent de l'argent...
D'autres
seulement sources. Seulement une fois que la série est bien installée, les publicitaires commencent à être vraiment intéressés et donc ça génère davantage d'argent. Tandis que Netflix, que la série soit bonne ou pas bonne, l'argent il l'a déjà engrangé précédemment, tu vois.
Oui, il faut regarder une ligne de temps aussi. Ils ont dû produire du contenu à vide aussi, les Gaillards. Hein. Ils ont commencé avec budget zéro, hein, je suppose.
Oui.
Donc ils rattrapent peut-être juste leur retard.
Oui, bien sûr.
Donc, peut-être pas plus facile que les autres.
Je crois que budget zéro, ça m'étonnerait que ça fonctionne comme ça, tu sais.
Oui, mais on se comprend.
Soit, bref. Donc tout ça pour
comment dire... je me fais Vas-y, continue ta théorie.
Mais non, mais tu présentes Netflix comme si c'était le petit mec là sans fric qui s'était dit un jour « Oh, je vais produire une série » et ça a marché et du coup il a pu en produire plus et tout. C'est un peu le rêve américain que tu nous proposes, c'est
ça,
merveilleux.
Mais tu dois bien te rendre compte qu'ils ont dû mettre des billes sur la table et que maintenant ils sont peut-être juste en train de récupérer une petite part de ce qu'ils ont dû mettre, quoi, voilà.
Oui, peut-être, mais je crois... Enfin... Je crois pas que ce soit dans cet ordre-là que ça ait fonctionné, tout simplement parce que Netflix existait bien avant de produire des séries, quoi. Au départ, c'était simplement un service qui envoyait des DVD par la poste, hein. Donc voilà.
Bien.
Ok, bon. Soit. Donc, deuxième chose à prendre en compte quand on parle de séries et d'économie, c'est les différences donc, entre les différents producteurs et diffuseurs de ces séries. Enfin, justement, en tenant compte des deux éléments que je viens de citer précédemment, on va pouvoir remarquer aussi qu'au niveau des critiques et aussi au niveau des prix qui sont remis, on a bien souvent une sorte d'écart qui se marque très fort entre les grands succès critiques et parfois les séries qui reçoivent beaucoup de prix, et puis les vrais succès populaires ou les séries qui vont vraiment engranger un très large public.
Mmh.
Tout simplement, pour de nombreuses raisons, évidemment, certaines assez évidentes, comme le fait que le plus large public n'a pas accès forcément aux séries qui sont les plus pointues et qui sont uniquement sur le câble, hein. Ça c'est assez élémentaire, mais aussi pour d'autres raisons qui tiennent à nouveau à certains phénomènes de goût marqués par notre origine socioculturelle, ce genre de choses-là, quoi.
Bien.
Bien. Ça te convient ou bien
je dis plus rien.
Ah, oh, flûte.
Bon, on va marquer une petite pause,
on
si tu le veux bien.
On va marquer une pause, oui.
Musique, dis-moi.
Alors, on va s'écouter The Middle, chanté par Jimmy Eat World dans The Middle.
Nous sommes repartis. Prochain aspect abordé à propos de l'économie des séries télé.
Oui, cette fois-ci, on va regarder à l'intérieur des séries comment elles traitent les différences économiques, quelque part.
Mmh.
Ok. Alors, on commence tout de suite en disant qu'on pourrait dire qu'il existe trois types de séries sur ce sujet-là.
Mmh.
Un premier type pour lequel qui traite véritablement du sujet. Un deuxième type qui n'en traite pas, mais qui utilise parfois certains éléments comme prétexte. On verra un petit peu comment. Et puis, celles qui en font un non-sujet, qui l'occultent totalement. qui, je crois, sont quand même majoritaires malgré tout. Mmh. Alors, parmi celles qui, pour lesquelles c'est un sujet véritable, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'elles sont relativement rares et que, eh bien, même lorsqu'il y a un véritable effort qui est fait, elles ne sont pas pour autant sans risque. Alors, il y a différents risques qui peuvent exister pour ce traitement-là. Le premier, c'est le fait que bien souvent, lorsqu'on va présenter un milieu beaucoup plus défavorisé que dans la série de base, hein, dans la série de base, on est généralement davantage dans un milieu de classe moyenne supérieure.
Oui, qui n'est pas très représentatif finalement de la majorité.
Qui n'est représentatif que d'une partie de la population.
C'est un peu le rêve américain, hein, qui est exposé.
Oui, c'est ça, voilà. on peut dire ça comme ça. Alors, autour de cette espèce d'étalon qui serait à nouveau, hein, on a dit que les séries d'hommes étaient un petit peu l'étalon de ce qui était le neutre, les séries de blancs étaient un petit peu l'étalon de ce qui était le neutre, même si on a vu aussi que tout ça évoluait de plus en plus. Mais pour ce qui est des questions économiques, j'ai l'impression qu'on n'en est pas encore au point d'avoir vraiment des séries représentatives de milieux beaucoup plus défavorisés et qui ne tomberaient pas assez vite dans la caricature. Et donc, le premier risque, justement, c'est que ce soit au-dessus de cette espèce d'étalon qui serait classe moyenne supérieure ou en dessous, on a soit à chaque fois une caricature, soit dans l'exotisme, entre guillemets, je pense à des séries comme Shameless, comme My Name is Earl, par exemple, dans lesquelles on a une représentation de milieux beaucoup moins favorisés, mais qui sont accompagnés d'une sorte de folklore, comme ça. C'est beaucoup plus sympathique, on nous les présente comme étant le bon sauvage, j'ai l'impression, vraiment la représentation extrêmement sympathique du pauvre de base, quoi.
Voilà, ça va déraper ici, mais on a presque envie de les rencontrer, tiens, ces pauvres.
Mais oui.
Mais en même temps.
De fait, que ce soit les personnages de My Name is Earl ou les personnages de Shameless, même s'ils ont tous plus ou moins un grain, on a quand même bien envie de les rencontrer parce qu'ils sont extrêmement sympathiques.
Mais oui, mais on en connaît, tu vois, des gens comme ça tout proches de nous. Tu vois ce que je veux dire?
À ce point-là.
Oui, je pourrais te donner des noms, mais après on va se faire des ennemis. Okay. Mais bon.
Donc voilà, on a quand même une forme, j'ai l'impression, toujours d'exotisme qui est mêlé à ça, tout autant qu'il y a dans la représentation des classes très 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 aisées, comme par exemple dans Gossip Girl ou Revenge.
Là, on en connaît moins.
ok. Dis tout de suite qu'on côtoie uniquement les...
Oui, les prolétaires. Mais on en vient, hein, qu'est-ce que tu veux.
Mais oui,
on est en train de réussir, là, mais bon.
Ah oui, t'as l'impression Écoute, allez, continue à t'illusionner sur le sujet. Donc, du côté de la représentation des plus riches, ça va aussi être très caricatural, mais là, davantage dans... Alors, c'est aussi une forme d'exotisme, hein, mais un exotisme du glamour. Tandis que l'exotisme du pauvre, c'est plus un exotisme très, très sympathique, très abordable, très, très accueillant, comme ça.
Mm-hmm. Quand on regarde la fameuse série sur le fameux manoir, là...
Le manoir ?
Mais allez, c'est pas glamour du tout, dans les années je sais pas combien.
Ah, Downton Abbey.
Voilà, là c'est aussi de la super haute classe, mais il n'y a pas de glamour, quoi, vraiment.
Oh, si, quand même.
Un petit peu.
Si, c'est un petit peu. Comment dire, bon, déjà, comme c'est une série historique, ça nous met un petit peu en retrait, mais malgré tout, il y a une sorte d'exotisme aussi dans cette manière de vivre-là qui nous paraît très, très singulière.
Oui, on a envie de les connaître aussi.
Ok, bon. Quelle série est-ce que je pourrais citer dans qui traite malgré tout du sujet pas trop mal, même si on n'échappe jamais totalement à la caricature, évidemment, des séries comme The Middle, moi me plaît beaucoup. Dans Friday Night Lights, on a un petit peu aussi la représentation, même si c'est très paternaliste. Dans Breaking Bad, aussi, c'est une représentation d'un milieu pas très favorisé, hein, à la base, qui est plus utilisé comme prétexte pour justifier l'action. Mais,
oui, la délinquance, mais alors à ce point-là, tu peux en sortir quelques-unes. Hein.
Oui, c'est ça.
The Wire est un bel exemple d'une société et d'une ville vraiment en mauvais état socialement. Enfin, parlant.
Oui, oui.
Bon, on va y rechercher que l'effet de drogue et ce genre de choses, de criminalité. Et puis c'est traité dans une saison de manière médiatique. Donc voilà, des séries qui vont finalement te montrer les différents aspects, les riches, les pauvres, sans vraiment mettre le doigt dedans, il va quand même y en avoir beaucoup.
Mais ça c'est justement ce qui est le plus compliqué, c'est que généralement, soit on te montre des riches et ils restent entre eux, soit on te montre des pauvres et ils restent entre eux, mais on a très 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 rarement pris en compte le rapport parfois extrêmement violent entre un milieu très aisé et un milieu plutôt défavorisé. En cela, une série comme par exemple The Affair, cette saison-ci, c'est-à-dire cette saison 2, me paraît pas inintéressante s'ils continuent un petit peu dans le chemin qu'ils sont en train de prendre, parce que justement, ils dévoilent un petit peu de cette violence entre deux milieux qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Donc voilà, mais des séries qui montrent ça, il y en a pas énormément, quoi. On a aussi la série The Riches, que moi j'aimais beaucoup, qui était aussi assez caricaturale dans sa manière de présenter les choses, mais qui montrait aussi une sorte de décalage entre deux milieux qui a priori ne se rencontrent jamais. Bon, autre risque qu'on rencontre aussi, c'est soit le paternalisme. Par exemple, le gros exemple, ça peut être Arnold et Willy, hein, le gentil riche qui vient adopter deux enfants pauvres pour les faire vivre dans son bel appartement privatif. Mm-hmm. Ou bien, plus récemment, une série comme Newport Beach peut aussi s'apparenter un petit peu à ce genre de choses-là. Ou alors, tout simplement, le déterminisme dans lequel on peut aussi parfois se retrouver, où on vit un petit peu toujours en vase clos et il n'y a jamais véritablement moyen d'en sortir. Il y a les séries prétextes. Alors, pourquoi prétexte ? Soit parce qu'ils utilisent simplement ce sujet-là, mais en background, pour donner une sorte d'effet de réel à leurs histoires, mais sans que ça n'ait jamais véritablement d'impact sur ce qui se passe dans la série. Ça peut aussi être prétexte simplement à l'action. Et puis, souvent aussi, c'est prétexte à rire, parce que les pauvres, c'est toujours drôle. Et puis, enfin, on a les très nombreuses séries dans lesquelles c'est tout simplement pas un sujet. Alors, soit parce que ça n'est pas pris en compte, soit aussi parce que en fonction du pitch, on a une sorte de mise à plat. Par exemple, dans toutes les séries apocalyptiques, dans les séries comme Lost aussi, ou ce genre de séries-là, on a une mise à plat de toutes les différences économiques dues au fait qu'on se retrouve dans un milieu sans classe, quelque part.
Hmm. Et The Walking Dead est un bon exemple, alors.
Par exemple, oui. Et c'est intéressant parce que... C'est pas comme si l'effacement de toutes ces conditions effaçait véritablement les différences entre les classes, mais en tout cas, c'est ce que ces séries-là auraient tendance à nous faire croire, puisque...
Oui, on remet toujours quand même en place, que ce soit dans Lost ou The Walking Dead, une sorte de hiérarchie. Il y a toujours un chef qui doit diriger.
Oui, oui, ça, bien voilà. Sûr, une hiérarchie, oui, mais qui ne se base absolument pas sur une sorte d'héritage socioculturel, quoi.
Non, du
c'est,
tout.
C'est vrai que Jack, par exemple, est docteur. Est-ce que ça lui accorde une sorte de privilège supplémentaire par rapport aux autres ? Mais bon, par exemple, Hugo est beaucoup plus riche que lui, mais avec un héritage socioculturel beaucoup. C'est pas si simple. Mais en tout cas, oui, j'ai l'impression que il y a une tendance à mettre tout ça, lisser un petit peu dans ce genre de choses. Donc le risque, évidemment, c'est encore une fois une invisibilisation. Par exemple, toutes les séries dans lesquelles les personnages vivent dans un logement dans lequel, dans la vraie vie, ils ne pourraient jamais vivre parce que ce sont des logements beaucoup trop chers. Tous les services publics, que ce soit police et hôpitaux, qui coûtent très cher et que dans la réalité on ne propose quasiment jamais, mais qui sont systématiquement proposés dans certaines séries. Et puis évidemment, on montre quasiment jamais non plus tous les problèmes, chômage, misère, etc. C'est très rare, quoi.
Ouais. Voilà. C'est la débrouille marrante, quoi. Voilà.
Voilà, oui. Plutôt. Donc, on va passer à la musique.
Musique, parce que le chronomètre ne s'arrête pas, malheureusement.
Alors, on va s'écouter What's Your Name de Lynyrd Skynyrd, entendu dans My Name is Earl.
Il est déjà temps de conclure cette émission. Alors Aurore, c'est quoi le petit résumé de toute cette histoire ?
Alors, le résumé, évidemment, c'est que la première chose, c'est d'avoir malgré tout conscience de tous ces éléments qu'on vient de simplement d'effleurer. Ça peut pas faire de tort lorsqu'on aborde une série. Ça permet notamment d'éviter l'élitisme critique qui peut avoir un effet assez énervant, puisque finalement ça devient une élite qui parle uniquement à une élite et qui ne s'adresse plus du tout au public. Ça permet aussi de prendre conscience des effets que peut avoir le traitement de cette question. S'interroger sur l'image qu'on donne de ces différences économiques dans la série. Est-ce que la série le traite ou pas? Est-ce qu'elle permet véritablement de dévoiler une part de la violence qui existe là aussi? C'est quand même très rarement le cas, hein. Qu'est-ce qu'elle invisibilise? Quels sont les différents travers qu'il faudrait éviter et commencer véritablement à éviter le plus possible, l'exotisme, le paternalisme, le déterminisme, la minoration aussi, en faisant croire que ça n'existe quasiment pas, c'est totalement anecdotique comme élément, voilà. Tout ça permet malgré tout d'aborder les choses avec un autre regard, et à côté de toute la prise de conscience dont j'ai parlé la semaine passée, qui permet à des séries de davantage montrer la diversité, il serait bien aussi que les séries commencent à davantage montrer la diversité sur ce plan socio-culturel là aussi.
Voilà, c'est une mission qu'ils doivent prendre à bras le corps. Ce n'est pas que du divertissement. Au final, on s'identifie à toutes ces séries qui nous inondent les yeux.
Oui, bien sûr. Alors, bien sûr, ça reste du divertissement, hein, mais l'un n'empêche pas l'autre. Je crois que autant il y a moyen de commencer à faire des séries non sexistes tout en restant divertissant, du moins je l'espère, il devrait y avoir moyen aussi de commencer à prendre en compte ces questions-là, tout en restant de la série grand public, quoi.
Merci Aurore pour cette belle réflexion.
De rien.
La suite au prochain numéro, si tu le veux bien. Série Folie pour cette semaine, c'est terminé. On vous conseille fortement d'aller consulter le site internet de l'émission, www.seriefolie.be, Série Folie avec un SA série, le tout en un mot. Pour le reste, le podcast sera disponible très bientôt. Voilà, la semaine prochaine, un sujet qu'on ne connaît pas encore.
Évidemment pas.
À découvrir. La suite, eh bien, c'est la musique pour nous dire au revoir.
Oui, nous allons nous écouter justement pour rendre hommage un petit peu à ce que la série D.F.R. est en train d'essayer de faire, ou en tout cas, peut-être que c'est juste dans ma tête. Hein.
Elle te plaît bien cette année-ci, en tout cas.
J'ai failli abandonner et puis finalement
ça revient.
J'ai bien fait de reprendre, parce que ces tout derniers épisodes commencent à devenir intéressants, et s'ils s'y tiennent, ça peut vraiment promettre de belles choses.
Alors, cette musique.
Alors, il s'agit donc de Maisie Star qui nous interprète Bells Ring.
Merci à toi. Et je te dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Bye. Right back.